Bonsoir, mon père.
Bonsoir, cher Andrea.
Merci, merci pour votre présence au milieu de nous. C'est vraiment un honneur. Merci de partager, de nous enseigner. C'est vraiment super. Nous vous laissons la parole.
Alors, shalom, chers tous.
Shalom.
Bien, donc vous allez voir de temps en temps ma voix grésille. C'est la grippe qui me frappe de plein fouet. Mais voilà, je pense qu'avec la grâce de Dieu, nous allons faire le mieux pour nous faire entendre. Ça va, vous m'entendez?
On vous entend, mon père.
Ok. Te bénissons, Seigneur, et te glorifions par la puissance de ton nom, toi qui nous enseignes tes mystères, toi, Seigneur, qui te révèles par ta parole, et toi qui inspires, Seigneur, le corps de l'Église. Nous voulons la présence et la puissance de ton Esprit Saint, qu'elle soit à l'œuvre et nous ouvre à l'intelligence de ta divinité, de la Sainte Écriture et de ta Sainte Doctrine. Gloire et louange à toi, Seigneur.
Amen.
Voilà, c'est donc le frère Israël Marie de la Croix Glorieuse, Père Trinitaire. Et je pense que ça va être peut-être la troisième fois qu'on m'invite sur ce plateau, pour l'apostolat des disciples de Jésus. Et aujourd'hui, donc, je vais partager avec vous le thème suivant, la doctrine catholique sur la Vierge Marie. Bon, moi, j'ai vu prédication, peut-être vous aurez vu mettre, je sais pas, enseignement, mais peu importe, c'est parce que nous allons faire les deux. Et je vais rapidement donc passer par quelques ressources, hein, quelques sources. Voilà pour les catholiques. Donc, vous avez le catéchisme de l'Église catholique, là. Le catéchisme de l'Église catholique. Et là-dedans, vous avez toute la doctrine, tout ce que dit l'Église catholique sur la Vierge Marie. Donc, c'est important pour les catholiques de s'outiller. Ça, c'est d'abord une première chose. Et vous avez, donc, pour avoir un enseignement digne de ce nom, un enseignement qui porte la génétique catholique, eh bien, il y a quelques fondements que je dois rappeler ici pour que votre enseignement soit catholique. Donc, pour que votre théologie soit orthodoxe, eh bien, il y a ce qu'on appelle le fondement de la parole de Dieu. Donc, la Bible, nous avons le fondement de la tradition de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont interprété l'enseignement du Christ. Donc, on a les apôtres, on a ceux qui ont suivi les apôtres, ce qu'ils ont dit du Christ, ce qu'ils ont dit de son enseignement. Parce que rappelez-vous que la Bible, elle est récente. Tous les textes que vous avez ici, hormis les textes de l'Ancien Testament, quelques textes de l'Ancien Testament, notamment la Torah et quelques textes de l'Ancien Testament, se figuraient déjà dans ce qu'on va appeler le canon hébreu ou la Bible hébraïque. Donc, pour le Nouveau Testament, on a rassemblé à un moment donné quelques textes de certains apôtres, de certains prédicateurs, et qui ont constitué les documents de foi que nous utilisons aujourd'hui dans notre Bible. Donc, la Bible catholique, je dirais la Bible, pas seulement catholique, la Bible s'est constituée au fil des temps. Ce n'est pas un livre qui est tombé du ciel, eh bien, ça a eu une composition, ça a eu un rassemblement. Et donc, dans les premiers conciles, je crois au 3e, au 4e, au 5e siècle, si je ne me trompe pas, mais c'est quand même à vérifier. Eh bien, on a commencé à travailler sur les écritures qui vont servir d'authenticité, qui vont provoquer la foi, qui suffiront pour provoquer la foi. Et donc, on a rassemblé ce qu'on va appeler aujourd'hui le canon des écritures. Mais il y a d'autres textes qui peuvent nous aider à comprendre la réalité de l'écriture. Donc, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, les fondements que je vais utiliser, que ce soit pour les catholiques ou pour ailleurs, il faudrait bien repartir aux sources. Je rappelle, premier fondement théologique, la parole de Dieu. Dites-vous que la Bible a été constituée au fil des siècles. Donc, ce n'est pas tombé du ciel pour jurer là-dessus, pour dire que bon, voilà. Donc, ça a été constitué. Et donc, il est arrivé un moment où on a statué les livres qui doivent figurer dans la Bible. Vous avez le deuxième fondement, qui est d'ailleurs le plus ancien. Voilà. La tradition, ça c'est dans l'Église catholique, la tradition. Donc comment est-ce que les apôtres et les successeurs des apôtres, les pères de l'Église, donc là les pères latins, les pères grecs, ont interprété l'enseignement. Nous avons enfin ce qu'on va appeler le magistère de l'Église catholique. Donc sur le magistère, vous avez ce qu'on appelle l'enseignement des papes, des évêques. Donc le pape dans l'Église catholique représente l'enseignement universel, ce qu'on va appeler le magistère universel, mais également lors des grandes rencontres, telles que les conciles. On peut aussi appeler cela le magistère universel, c'est-à-dire l'enseignement universel. Excusez. Et quand l'enseignement est donné par les évêques, successeurs des apôtres, on parle du magistère local. Ensuite, le quatrième fondement théologique sera un fondement contextuel, c'est-à-dire à la lumière de l'anthropologie. Sociologique et anthropologique, donc culturelle, les mœurs d'une nation à une autre. Donc, ce qu'on va appeler la théologie contextuelle. Je voulais préciser ça. Donc, pour les catholiques, catéchisme de l'Église catholique, pour la doctrine sur la Vierge Marie. Donc, vous allez prendre, ça c'est chez vous, vous allez noter, eh bien, le numéro, parce que nous n'allons pas tout lire ici, comme on n'a pas de prédication, j'aimerais faire une prédication ensuite, hein, mais là, on va vous donner d'abord quelques éléments. Voilà, donc, le catéchisme de l'Église catholique, en parlant du credo. Donc, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Voilà, je crois que le credo, eh bien, que ce soit dans le monde catholique ou protestant, voilà, eh bien, on récite le même credo, sauf que pour dire l'Église catholique, on ne dit pas l'Église catholique chez les protestants, mais on dit l'Église universelle. Mais entendez bien que le mot universel catholique signifie universel. C'est ça en réalité. Voilà, donc on parle à partir de ce paragraphe commun à toutes les églises, du moins pour ceux qui récitent le credo, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Petite introduction. En parlant de la doctrine de l'Église. Ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu'elle croit au sujet du Christ. Mais ce qu'elle enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi au Christ. Dans cette petite introduction, la doctrine de l'Église catholique dit ceci, qu'on ne peut pas parler de Marie en dehors du Christ. Si on veut parler de Marie et des mérites ou des grâces qu'elle a reçues, c'est à cause du Christ. En parlant de Marie, on n'éclipse pas, eh bien, le Christ. En parlant de Marie, eh bien, on approfondit notre foi au Christ. Voilà, donc ça doit être bien clair. Je reprends notre petite introduction. Ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu'elle croit au sujet du Christ. Mais ce qu'elle enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi au Christ. Donc, c'est vraiment le Christ, le nœud. Le chemin, la vie, la vérité, ce n'est pas Marie. Le chemin, la vie, la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous mène vers le Père des Lumières. Maintenant, en contexte catholique, la dévotion à la Vierge Marie ou l'intercession que nous implorons, voilà, l'intercession de Marie, n'est pas une option. Donc là, je m'adresse un peu aux catholiques. Voilà, même si on peut prier avec tout le monde. Mais la dévotion à la Vierge Marie n'est pas une option dans l'Église catholique. C'est un droit, c'est une obligation. Donc, vous pouvez ne pas faire les neuvaines à Sainte Rita, ainsi de suite. Mais le rosaire, la vénération à la Vierge pour le catholique, est une obligation. Même si vous vous retrouvez avec nos frères protestants, de l'Église, de réveil, ainsi de suite, ça doit être clair pour le catholique. Donc, les protestants, nos frères de réveil, ne sont pas obligés de prier la Vierge Marie. Donc, on ne peut pas dire que les frères de réveil ou des protestants doivent prier Marie, parce que Marie n'est pas le chemin, la vérité et la vie pour aller au Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est important. Et mais pour le catholique, la Vierge Marie nous amène, c'est la petite voie qui nous amène vers le Christ. Donc, c'est ce petit pont-là. Bon, maintenant, regardons, on va rentrer purement dans la doctrine. Donc, ça, je voulais quand même éclaircir là-dessus. C'est que le point focal de notre foi, ce n'est pas la Vierge Marie. La Vierge Marie est un élément, une pièce importante dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de la rédemption. Bien. Alors, on va parler un peu de la prédestination, je dirais plutôt, conçue du Saint-Esprit. Dans le premier point, conçue du Saint-Esprit. Non. Plutôt, le premier point, né de la Vierge Marie. En parlant de la prédestination de Marie, Dieu a envoyé son Fils, mais pour lui façonner un corps, il a voulu la libre coopération d'une créature. Pour cela, de toute éternité, Dieu a choisi pour être la mère de son Fils, une fille d'Israël, une jeune juive de Nazareth en Galilée, une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Luc, chapitre 1, le verset 27. Il faut dire que Dieu prépare, eh bien, la Vierge prépare, eh bien, celle qui va accueillir le Fils de Dieu. Ben, je vous ai dit que de temps en temps, je vais moucher là, parce que... Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grippe. Waouh. Donc Dieu va destiner eh bien une femme pour accueillir son fils. Et cela nécessite une préparation. Dans la logique théologique, c'est que Dieu qui est saint ne peut pas naître dans un corps qui n'est pas saint. Et donc Dieu a dû se débrouiller certainement avec sa toute puissance pour que venant dans le monde, donc le Fils, le Verbe venant dans le monde, eh bien, trouve un espace qui puisse l'accueillir à la hauteur de sa divinité. Donc, c'est pourquoi on parle de la prédestination de la Vierge Marie. Elle a été préparée pour cela. Et nous allons donc lire, on va prendre le passage, comme on est avec nos frères. On va prendre Luc, chapitre 1. Voilà, ceux qui ont la Bible, c'est important. Donc, on a l'emprunt, le premier fondement théologique, c'est-à-dire la parole. Voici le texte de l'Annonciation. Luc, chapitre 1, le verset 26 à 38. Luc, chapitre 1, le verset 26 à 38. Nous lisons. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée, à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Je m'arrête par là. « Réjouis-toi, comblée de grâce. » Le mot grec utilisé ici, c'est la « kekaritomenin ». En fait, qui signifie plénitude, abondance, débordement. Mais le français ne rend pas ça vraiment. Je crois qu'il faut retourner en grec. Donc, on parle ici de la kekaritomene, c'est-à-dire une plénitude de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et alors là, bien-aimé, nous pouvons déjà voir eh bien, le fondement théologique de la prière du « Je vous salue Marie ». Parce qu'ici, nous reprenons les paroles de l'ange Gabriel. Donc, au chapitre 1 de Luc, le verset 28. Donc, la prière à Marie n'est pas une prière puisée de toutes parts, mais c'est une prière qui trouve ses fondements théologiques dans la parole de Dieu. Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Donc, nous retrouvons cette phrase ici. À cette parole, elle fut troublée. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie. » Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans la Bible qui ont des personnes qui ont trouvé grâce auprès de Dieu. Mais Marie fait partie de ces personnes, mais si on veut classer, eh bien, elle est ce qu'on appelle dans l'ordre de l'inclassable au niveau de l'humanité, bien entendu. En termes de grâce ou de celui ou celle qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Parce qu'Abraham a trouvé grâce auprès de Dieu, Noé a trouvé grâce auprès de Dieu, mais avec Marie, c'est à un autre titre, à un autre degré, excellent, excellentissime. Bien, on continue. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé du Fils, Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il ? Puisque je ne connais pas d'homme. » Je m'arrête ici au verset 34. Nous croyons que ce soit ceux du réveil des protestants et ainsi de suite, du moins ceux qui lisent la Bible, nous savons que la fécondation du Christ, ce qui a présidé à sa naissance, eh bien, c'est un miracle. Ce n'est pas le spermatozoïde d'un homme qui a fécondé la Vierge Marie pour que Christ s'incarne. Il s'agit d'un miracle. Ça va. Et donc, ce qui va se passer, ce sera par l'opération du Saint-Esprit. Mais c'est intéressant, par exemple, en parlant d'un autre aspect de la doctrine de l'Église catholique, eh bien, quand on dit que la Vierge Marie est vierge avant, pendant et après, le fait est simple. Comment ce même Dieu qui a pu féconder la Vierge Marie sans la semence d'un homme ne peut pas sortir d'une manière miraculeuse sans altérer la virginité de cette même femme? On croit plus facilement que le Christ s'est incarné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de sens humain, mais on ne croit pas le fait que Christ soit né sans ouvrir, eh bien, sans faire perdre la virginité à la Vierge Marie. Donc, voyez, il y a un peu l'absurdité. Lui qui est Dieu, qui est capable de rentrer sans briser la porte, on va dire le portail secret, vous comprenez, là j'utilise l'euphémisme, il rentre, mais comment au fil ne peut pas sortir sans briser aussi ce portail? Et c'est ce qu'on appelle la réflexion théologique. Puisque la Bible ne peut pas nous raconter de bout en bout comment la personne respirait ou bien elle parlait. Parce que la Bible n'est pas d'abord un livre d'histoire, mais c'est un livre de mouvance théologique qui nous rappelle la foi, qui a une visée purement théologique et non historique. Ou bien, oui, historique ou bien géographique. C'est pourquoi ne vous étonnez pas si dans la Bible, certains passages géographiques ne coïncident pas avec la réalité. Parce que le but de l'auteur n'est pas de montrer un espace géographique. Le but de l'auteur est théologique. Bien. Donc, là, on affirme, à travers cette parole, que la Vierge Marie a été conçue. Plutôt, le Christ Jésus a été conçu sans la semence d'un homme, mais également, il est né d'une manière miraculeuse, sans pourtant briser la virginité de la Vierge Marie. C'est pourquoi, eh bien, les catholiques disent ceci, et d'ailleurs, c'est dans la tradition de l'Église, on dit que la Vierge Marie est vierge avant, pendant sa grossesse, et après sa grossesse, et même pendant qu'elle allaitait le Christ. Et on parle ici de la virginité perpétuelle. Continuons notre passage biblique, je m'étais arrêté au verset 34. À la réponse à la question de Marie qui lui demande, mais comment cet enfant va entrer dans mon ventre s'il n'y a pas de semence d'homme? L'ange répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Waouh! L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Je m'arrête au verset 35. Nous avons ici une manifestation trinitaire. Quand je parle trinitaire, c'est-à-dire nous avons la manifestation du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. On parle, il dit, l'ange lui-même dit, l'Esprit Saint, donc on a l'opération du Saint-Esprit sur la Vierge Marie. On a la puissance du Très-Haut qui est l'expression qui renvoie au Père. Et enfin, on a l'expression de fils, donc l'enfant. Waouh! Et même si on ne trouve pas le mot Trinité dans la Bible, parce que ça. Mais ce mot désigne la personne du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Je dirais le Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, leur opération. Donc ça a toute une logique. Et d'ailleurs, le mot Trinité est inventé par Tertullien. C'est un père, c'est un écrivain ecclésiastique avant le 5e, 6e siècle. Et c'est pourquoi, chers chrétiens, je vous demandais d'aller faire l'histoire de l'Église. C'est important parce que ça nous permet de recadrer notre foi et parfois certaines définitions ou certaines compréhensions selon le contexte. Donc, nous avons ici l'ange Gabriel qui nous donne ici l'opération de trois personnes. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, apparente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Waouh! Souvent, quand nous faisons nos discussions, parfois on oublie que rien n'est impossible à Dieu. Et nous mettons Dieu dans les quatre murs de la raison. C'est-à-dire, quand nous n'avons pas compris quelque chose avec notre raison, on dit ça, ce n'est pas vrai. L'ange lui-même dit, car rien n'est impossible à Dieu. Waouh! J'aimerais que quand même ce soir, on puisse rentrer dans une autre dimension de la foi. Et j'ai envie d'appeler ça l'immersion dans la foi ou le baptême dans la foi. Une descente dans la foi dans une autre dimension. Et ça, c'est important parce qu'il faut comprendre que l'entendement seul ne suffit pas. J'ai aimé l'auteur qui a écrit, il s'appelle Saint Jean-Paul II, et il a d'ailleurs rappelé ici la pensée occidentale, d'ailleurs même aussi la pensée africaine. Fides et ratio, c'est-à-dire la foi et la raison. Eh bien, ce sont deux éléments qui permettent à l'homme d'être stable et équilibré. Là où la raison s'arrête, la foi vient supplier, vient entraîner, vient faire immerger la raison dans une autre dimension. Donc, on ne peut pas séparer foi et raison. Et c'est pourquoi, parenthèse, je sais que j'ai affaire ici à des Africains comme moi, mes frères et sœurs, c'est pourquoi la science au niveau de l'Afrique, nous n'avons pas eu, cet éclatement de la science où on séparait la foi et la raison. Parce que pour l'Africain, la science est spirituelle et la spiritualité est aussi science. Ça, c'est important. Et l'Africain le savait depuis. Et pour votre gouverne, vous savez que les dernières recherches, même déjà depuis Tchèque Antadiop et avec Théophile Obenga, eh bien, on a prouvé que c'est l'Afrique noire qui va civiliser la planète Terre. Voilà, la première civilisation en termes de science, en termes même de spiritualité. Et ça, c'était pour votre gouvernement. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment la science ici. Mais voilà, il faut avoir une âme africaine, comme je le disais, une âme africaine pour comprendre la Bible. Je ne parle pas de la peau africaine. Bien aimé, il faut avoir une âme africaine pour comprendre la Bible. Et souvent, je me suis quand même un peu étonné quand j'écoute des intellectuels africains qui me disent « Ah, mes frères, pères, mais écoute, tu sais, on a nos cultures et tout, et puis la Bible, là, c'est l'histoire, c'est une affaire des Occidentaux. » Et puis, c'est un intellectuel qui parle, un universitaire. Et à moi de lui dire, bon, nous allons parcourir de bout en bout la Bible. Si tu as déjà lu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et tu me montres là où il y a un pays, par exemple, comme la France, tu me montres. Si on cite l'Allemagne, eh bien, vous me montrez. Si on cite les États-Unis, eh bien, montrez. Voilà. Et si vous lisez bien la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on vous parle de l'Égypte, de l'Éthiopie, de la Libye, du Soudan, de la Nubie. Bien-aimés, j'espère que l'Égypte, la Libye se trouvent en Europe. Ouais, l'Égypte et la Nubie se trouvent en Europe, bien-aimés. C'est intéressant. Et donc, il faudrait quand même qu'on ait ce qu'on appelle une honnêteté intellectuelle quand nous parcourons quand même certains documents. Qu'on ne prenne pas seulement des opinions, mais qu'on les défende avec certaines preuves. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est une culture africaine et orientale. Bref, c'était donc une parenthèse. Revenons à notre enseignement sur la Vierge Marie. Donc ici, Nous avons dit que rien n'est impossible à Dieu. Nous avons vu la manifestation trinitaire dans le mystère de l'incarnation. Eh bien, Dieu est devenu homme sans cesser d'être Dieu. Il est devenu ce qu'il n'était pas, homme, sans cesser d'être Dieu. Et ça, c'est le glorieux mystère de l'incarnation qui se réalise dans l'humanité à travers une femme qui s'appelle la Vierge Marie. Alors, je vais continuer, j'ai parlé ici de la virginité, de la Vierge Marie, mais il faut retenir que tout ce qu'on peut dire de la Vierge Marie en même temps, c'est à cause de sa maternité divine. Donc, rappelez-vous que c'est toujours en relation avec le Christ. Quand on veut parler de la Vierge Marie, n'isolez pas le Christ. On ne peut pas parler de la Vierge Marie en dehors du Christ. Chaque fois que nous parlons de ce que Dieu a accompli en la Vierge Marie, bien-aimés, nous parlons des merveilles de Dieu dans l'humanité. C'est puissant. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est elle qui a trouvé grâce auprès de Dieu. C'est elle, la Kekaritomene, qui a accueilli Dieu en elle, qui l'a, elle, allaitée, qui l'a nourrie. Dans la doctrine de l'Église, ben, je vais quand même donner déjà les références pour les références bibliques, mais en même temps pour les cathos, je vous ai dit, vous allez prendre le catéchisme de l'Église catholique, donc du numéro, voilà, il y a un peu de... Donc du numéro 484, notez bien, catéchisme de l'Église catholique, numéro 484 jusqu'au numéro 511. Donc, vous avez le résumé, le condensé, la doctrine de l'Église catholique sur la Vierge Marie. Et donc ça, un chrétien catholique n'est pas autorisé à ignorer cela. Vous devez être suffisamment outillé et connaître votre propre doctrine. Et dedans, donc, vous avez des multiples références, eh bien, qui nous renvoient à la tradition de l'Église, qui nous renvoient aux Saintes Écritures, qui nous renvoie au magistère de l'Église. Donc, quand je parle du magistère de l'Église, le credo que, par exemple, les protestants et les catholiques récitent. Mais ce n'est pas Jésus qui a laissé tel que saint. Mais c'est un travail des conciles. C'est un travail des conciles. Donc, c'est une réflexion théologique. Donc, si on récite aujourd'hui ce credo, ça a nécessité un travail théologique. Et donc, c'est important de connaître que la source qui nous permet également de nous enraciner, de mieux comprendre les Écritures, eh bien, c'est la tradition de l'Église, en même temps le magistère de l'Église, pour qu'on ne dévie pas. Bien, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a beaucoup de choses un peu à dire. Alors, parce que comme je vous ai promis, une petite prédication sur un petit thème que je vais glisser. OK? Donc, l'Église catholique, avec sa longue tradition, dit de Marie qu'elle est toujours vierge. Et c'est vrai, c'est un mot rappelé, le passage, là on parle des frères de Jésus. Mais attention, il y a l'autre Marie. La tradition de l'Église a vu, dans ce qu'on va appeler les frères de Jésus, on parle de l'autre Marie. Il y a plusieurs Maries, eh bien, devant, à la croix. Et c'est pourquoi il faut retourner lire les textes originaux. Bien. Donc l'Église catholique croit, avec la tradition de l'Église, que Marie est toujours vierge. Toujours vierge. C'est pourquoi on l'appelle la Vierge Marie. Parce que ce qui a été accompli en elle, bien aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est explosif. Maintenant, retenez, ouvrez bien les oreilles. Marie a été aussi sauvée. Là, je m'adresse aux catholiques. Parce que parfois, nous disons des choses, et puis les autres ont parfois raison un peu de nous matraquer sur... Je reprends. Marie a été aussi sauvée. Marie a été aussi rédemptée. Cependant, voici ce que la tradition de l'Église dit. Dieu, qui n'a pas le temps et l'espace, avait déjà appliqué les mérites du Christ, donc le Christ qui allait mourir, et là il faut rendre ce qu'on va appeler le temps théologique, qui n'est pas le temps du temps de l'espace, parce que Dieu n'a pas le temps de notre temps. Bien-aimés, et là c'est une autre dimension. On va parler ici du temps théologique. Dieu, sachant que son fils allait mourir, avait déjà appliqué ces mérites-là sur la Vierge Marie. Et c'est pourquoi on dit, l'Église catholique dit que la Vierge Marie a été aussi sauvée. Et c'est pourquoi, dès sa conception, elle est née sans péché. sans le péché originel, elle n'a pas connu aussi le péché personnel. J'espère que les cathos ont bien pigé. Voilà, Marie a été aussi sauvée. Elle est la première des sauvés. Elle a bénéficié d'une manière excellente des mérites du Christ, des fruits de la passion du Christ. Voilà, chers cathos, j'espère que vous êtes assis. C'est bon. Donc, ne dites pas que Marie n'a pas été sauvée, non. Marie a été sauvée aussi. Mais elle n'a pas péché. Parce que le Seigneur a appliqué dans l'ordre théologique eh bien, les mérites de son Fils pour que Marie puisse concevoir le Saint des Saints, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui étant saint, ne pouvait pas naître dans un corps qui a connu le péché. Donc la logique, ça, ce qu'on appelle la logique de la foi, la logique théologique. Que le Saint-Esprit nous ouvre puissamment encore l'intelligence. Et j'aime bien ce passage de Luc quand il parle des disciples de Maïus à la fin, chapitre 24, je crois, si je ne me trompe pas, 24 ou 21, 21 ou 24. À un moment donné, ils sentaient comment le Christ ouvrait leur intelligence à la parole. Waouh! Et quand il parlait, il sentait comme si ça se chauffait. Et donc, bien aimé, que le Saint-Esprit nous ouvre à l'intelligence de la parole. Amen. Merci Seigneur. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. Maternité divine. Voilà. Bien. Marie, il y a eu des débats. Hein? On dit non, Marie est la mère de Jésus. Marie n'est pas la mère de Dieu. Ça, c'est des débats depuis le 3e, 4e, 5e siècle. Ça a été tranché. Marie est la mère de Dieu. Donc la Théotokos. Marie est en même temps la Christotokos. 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 Voilà, Christotokos. Elle est Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Elle est Christotokos, c'est-à-dire mère de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas séparer Jésus-Christ en disant non, Marie est seulement la mère de la chair du Verbe. Non, on ne peut pas séparer Dieu. Ce Dieu qui s'est incarné ne sera plus jamais séparé. C'est pourquoi l'Église dit que Jésus-Christ, eh bien, a une âme, un corps, un esprit. Mais il a deux volontés naturelles, la volonté divine et la volonté humaine. Les deux volontés ne s'opposent pas, mais l'une est subordonnée à l'autre. Ce que dans sa volonté divine, ils avaient décidé avec le Père d'accomplir, eh bien, il accomplit dans sa volonté humaine. C'est formidable, bien-aimé. Ça, il faut prier, il faut mettre vos genoux au sol, parce que la théologie se fait en ayant les genoux au sol, c'est-à-dire la prière. Même si vous avez lu des livres, vous avez fait le grec, l'hébreu, ça ne suffit pas. Parce que le théologien du Fils, c'est bien le Saint-Esprit. L'explicateur du Fils, c'est le Saint-Esprit. L'explicateur du Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous voulons comprendre Jésus-Christ, nous devons accueillir la puissance et la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais m'attarder là-dessus et j'en viens sur la prédication, puisque j'ai vu le thème, eh bien, prédication. Voilà, pour ne pas vous laisser sur la fin. Donc, je vais donner quelques aspects bibliques. Mais avant, excusez-moi si je fais un peu comme ça. Mais avant, prenons toujours Luc. Il y a certains, parfois, de nos frères d'à côté, à tort ou à raison, parfois qui disent, mais pourquoi honorer la Vierge Marie? Il faut d'abord préciser. On prie la Vierge Marie. C'est vrai que le même mot en français n'est pas riche pour différencier quand on prie un Dieu et quand on prie une personne. Prenons un exemple. Nous sommes presque tous des francophones ici. Lorsqu'on s'exprime en français correct pour demander à quelqu'un de se déplacer, on dit « prière de vous déplacer ». Et quand on a un peu de civilité, si par exemple on rencontre un député ou un sénateur, on dit « honorable » ou « vénérable ». Mais comment ces mots, nous pouvons les appliquer si facilement dans notre milieu, mais nous ne pouvons pas appliquer à celle qui est la mère de Dieu? Et retenons un peu de ce qui s'agissant de la vénération, parce que même les catholiques ne comprennent pas aussi souvent. La vénération. Donc, on prie la Vierge Marie, mais on n'adore pas la Vierge Marie. Puisque nous nous exprimons en français, il n'y a pas un mot qui différencie. Quand on dit prière, qui s'adresse à quelqu'un, je prie quelqu'un de pouvoir penser à moi. Je prie. C'est-à-dire, c'est une demande. Donc, quand les chrétiens catholiques, lorsque vous priez la Vierge Marie, c'est-à-dire, c'est une demande où vous partez, vous dites, ben, écoute, est-ce que tu peux dire quelque chose sur moi vers ton Fils Jésus, à ton Fils Jésus? Et chaque fois, nous expérimentons ça dans notre vie. Si tu connais la maman d'un député, Et voilà, tu veux passer chez le député, tu connais la maman, tu dis, bon, maman, écoute, essaye de parler de mon cas à monsieur le député. Et si la maman vous aime très bien, mais voilà. Mais ce qui est magnifique, c'est que la Vierge Marie aime tous ses enfants. Et comme j'aime toujours dire, l'Église catholique, ce n'est pas l'Église de quelqu'un, c'est la maison de tous. Et j'ai dit à mes frères d'à côté, non, c'est notre maison à tous. Amen. Et un petit témoignage quand même. J'ai remarqué que les dévotes, ceux qui vraiment qui font une expérience formidable avec la Vierge Marie, parfois c'est les protestants. C'est incroyable. J'ai vu au Congo, Brazzaville, quand j'y étais, ceux qui fréquentent nos grottes Maria, c'est les protestants, c'est les gens du salutiste, les salutistes. Mais c'est exceptionnel. C'est magnifique. Et parfois, c'est eux qui nous disent, mais écoutez, mais la Vierge Marie, la puissance du chapelet. Mais ne vous en faites pas. J'ai déjà vu des pasteurs en cachette qui font le chapelet. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Donc, c'est tout, notre maman à tous. Notre maman à tous. Maintenant, revenons avant la petite prédication. Revenons. Voici ce que, après, ce que la Vierge Marie va dire. Donc Luc chapitre 1, le verset 46. Je vais m'arrêter où? À 56. Luc chapitre 1, le verset 46 à 56. La vénération de la Vierge Marie. On va écouter. Je vais me forcer de lire ça en français. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur. Rappelons que Marie le dit sous une onction prophétique. Elle est saisie par le Saint-Esprit et c'est le seul cantique prophétique de Marie qui a été rapporté. Bien-aimée. Donc, elle dit ces phrases dans la puissance du Saint-Esprit. Elle dégage, elle déborde d'une onction exceptionnelle. Et donc, il s'agit ici d'un cantique prophétique. Donc, Marie sous l'onction dit ceci. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Ouvrons les oreilles. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Pourquoi? Car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Voir que le Saint-Esprit déverse encore son onction en abondance. Et parfois, en rigolant un peu avec mes frères, je dis parfois, ça n'a pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre ça en français. Donc, au moment où la Vierge Marie prophétise, c'est-à-dire si on était en moins de 2000, je ne sais pas combien, cette parole-là prend effet. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. C'est noir sur blanc dans la Bible. Chers cathos, formez-vous vraiment. Ça veut dire quoi? À compter du moment où on l'a prophétisé, jusqu'à la consommation des siècles, que tu sois protestant ou catholique ou ceci, dès que tu découvres le Seigneur Jésus-Christ, dès que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois vénérer cette dame-là. Même si tu ne demandes pas son intercession, mais tu dois la respecter. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Et c'est ce que, par exemple, dans un contexte catholique, on dit souvent, bienheureux, le bienheureux tel. Bienheureux tel. Donc, elle, sous l'onction du Saint-Esprit, elle-même, le Saint-Esprit la canonise. La béatifie, voilà. Parce que la béatification vient du mot bienheureux. Quand on parle de béatitude, bienheureux, bienheureux. Et là, ici, c'est elle qui dit, toutes les générations me diront bienheureuse. En d'autres sens, toutes les générations me béatifieront. Waouh! Bien-aimé, c'est puissant. Donc, il ne faut pas chercher les problèmes avec la Vierge. J'ai rencontré des catholiques aussi qui ne font pas le chapelet, qui ne font pas et tout. Ça ne fait rien. Tu n'es pas obligé de prier la Vierge. Mais si tu es catholique, normalement, bien composé, tu devais comprendre que c'est obligatoire. Bon, maintenant, quand tu ne le fais pas, eh bien, bon, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Juste demander la grâce au Seigneur de pouvoir comprendre dans la foi ce puissant mystère. Donc, je voulais vraiment m'arrêter là, vous prendre ce petit verset, mettez-le au chevet de votre lit. Quand vos frères d'à côté vous demandent, mais vous posez seulement ça, vous prenez la Bible du frère d'à côté, vous dites, vous avez votre Bible à mener. C'est-à-dire vous fouillez le passage biblique dans sa Bible. C'est parce qu'il arrive à des moments, lorsque nos frères d'à côté se forment aussi, on n'a que des passages ciblés. Mais j'invite chaque chrétien catholique protestant du réveil, de lire la Bible en intégralité, dans l'intégralité. Parce que lorsque vous sortez un passage de son contexte, eh bien, parfois, on passe ce qu'on va appeler l'hérésie. L'hérésie, ça veut dire, c'est dire une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hérésie. Et donc, pour éviter l'hérésie, on doit contextualiser, retrouver le passage, ce qu'on va appeler le Sittleben, c'est-à-dire dans son contexte, disent les Allemands. Voilà, maintenant, je vais passer quand même, ça c'est l'essentiel, donc les catholiques, vous n'adorez pas la Vierge Marie. Comme c'est en français, quand on lit le mot prière, on n'y a qu'un seul mot pour dire demande, ainsi de suite. Donc, quand je prie quelqu'un, c'est une prière, j'adresse une demande. Donc, à la Vierge Marie, on adresse une demande. Chers catholiques, le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas la Vierge Marie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit être clair. Vous mettez ça, vous vissez, voilà. Vous n'adorez pas la Vierge Marie, il n'y a qu'un seul Dieu que nous adorons. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La Vierge Marie n'est pas seulement mère de Jésus-Christ, elle est mère de Dieu, Théotokos et Christotokos. Et donc, le Fils de Dieu a deux enfantements. Waouh, ça va être fort. Vraiment, mettez vos ceintures. Le Fils de Dieu a deux enfantements. L'enfantement dans l'éternité et l'enfantement dans le temps. L'enfantement dans l'éternité, parce qu'il est enfanté de toute l'éternité par le Père. Mais il est enfanté dans le temps par la Vierge Marie. Waouh! C'est la chair de Marie lorsqu'on voit la chair de Jésus. Et j'aime bien dire ça. La chair qui a été crucifiée sur la croix de Golgotha, c'est la chair de Christ Jésus, mais c'est la chair de Marie. Waouh! Parce qu'il n'y a pas eu de chair, il n'y a pas eu un spermatozoïde humain qui est venu. C'est puissant. Maintenant, le petit thème, peut-être il y aura des questions, mais ça c'était un peu le résumé, comme je vous ai donné, pour débattre là-dessus, sur la virginité perpétuelle, sur l'Immaculée, la Vierge Marie. Pourquoi on dit Marie conçue sans péché? Vous avez compris que Marie a été rédemptée, c'est-à-dire sauvée, depuis toute éternité. Le Père a appliqué ses mérites pour que Marie soit la femme, la personne idéale pour accueillir le Saint des Saints, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je disais deux enfantements. Jésus a deux enfantements, nature divine et nature humaine. Waouh! Bon, on va passer quand même une petite prédication. Il reste combien de minutes avant... Ah, ça passe vite, hein? Bien. Je vais prendre quand même un petit passage et le petit thème en conclusion. Il y a tellement de choses qui viennent. Je vais quand même conclure sur ce petit grand 1 de la doctrine de l'Église catholique sur la Marie. La conclusion. La conclusion, vous pouvez la lire dans le catéchisme de l'Église catholique, les numéros 508 jusqu'à 511. Mais je le lis. Je vais lire le numéro, les numéros. Dans la descendance d'Ève, Dieu a choisi la Vierge Marie pour être la mère de son fils, la kécaritoménée, c'est-à-dire la pleine de grâce. Elle est le fruit le plus excellent de la rédemption. Dès le premier instant de sa conception, elle est totalement préservée de la tâche du péché originel et elle est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Marie est vraiment mère de Dieu, puisqu'elle est la mère du Fils éternel du Dieu fait homme, qui est Dieu lui-même. Marie est restée vierge en concevant son Fils, vierge en l'enfantant, vierge en le portant, vierge en le nourrissant de son sein, vierge toujours. De tout son être, elle est la servante du Seigneur. Doulos kurios, le mot, l'expression en grec. Doulos kurios, l'esclave du Seigneur. Waouh, quelle humilité. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 1, verset 38. La Vierge Marie a coopéré au salut des hommes avec sa foi et son obéissance libre. Elle a prononcé son oui, donc le fiat, au nom de toute la nature humaine. Donc, en ton nom, en vos noms, en nos noms. Waouh, c'est merveilleux. Dans la Vierge Marie, elle représente toute l'humanité. Le oui de Marie est le oui de toute l'humanité. C'est super, c'est extraordinaire. Par son obéissance, elle est devenue la nouvelle Ève, mère des vivants. Ce que Ève avait noué par sa désobéissance, Marie, la nouvelle Ève, l'a dénoué par son obéissance. Gloire et louange à toi, Seigneur. C'est magnifique. Donc, je voulais terminer quand même par cette introduction pour prendre la petite prédication au moins de 10 minutes. Alors, ma prédication... Waouh. Ma prédication aura pour petit thème l'Esprit Saint et la Vierge Marie dans la vie du chrétien. L'Esprit Saint et la Vierge Marie dans la vie du chrétien. Rappelons ce beau texte de la Pentecôte, donc dans Actes des Apôtres, nous allons voir que Marie était au Cénacle. Le Cénacle, bien-aimé, n'est pas d'abord le lieu de la Pentecôte. Le Cénacle, bien-aimé, c'est le lieu de l'Eucharistie, le lieu de l'institution de la Sainte Cène, ce que l'Église catholique appelle l'Eucharistie, c'est-à-dire le lieu dans lequel, eh bien, le Christ se donne corps, âme, esprit pour être notre nourriture. Waouh! Donc, bien-aimé, si nous voulons monter dans notre Cénacle spirituel, dans la haute chambre, voilà, eh bien, nous devons d'abord communier au corps et au sang du Christ, une mystique de la communion au Christ, avant de recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Pour les catholiques, nous sommes en train de vivre ce qu'on va appeler la montée vers Pentecôte. Waouh! Donc, je disais, le thème de ma petite prédication, l'Esprit Saint et la Vierge Marie dans la vie du chrétien. Je vais prendre quel texte rapidement. OK. On va voir la visitation. Donc, Luc chapitre 1, le verset 39 à 45. Ouvrez grandement les oreilles. Concentrez-vous. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Bien-aimé, je m'arrête à ce premier passage. Marie a entendu qu'Élisabeth, sa cousine, est enceinte. Mais Marie est consciente de la grâce des grâces qu'elle a reçues. Je pense que peut-être certains parmi vous, si on les nomme en homme premier ministre, ou c'est pas chef du gouvernement, certains auront du mal à descendre dans la maison cabossée, eh bien, de l'un des amis. On se dit, non, je suis déjà au standing, comment moi, ministre, je vais descendre dans les bas-fonds du quartier. Mais, puisque nous sommes d'accord pour les charismes, on est en prière pour les charismes, n'est-ce pas? Je dirais, on implore, on demande la grâce au Seigneur de nous baptiser dans le Saint-Esprit, de vivre ce feu d'amour intérieur, ce réveil, parfois, pour renouveler cette flamme. On demande les dons du Saint-Esprit, je veux dire des charismes du Saint-Esprit, des miracles, des guérisons, ainsi de suite, de prédication, de puissance, j'en passe, de prophétie, des dons de langue, ainsi de suite. Mais vous savez pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sortent des églises, même des églises des réveils protestantes, hein, ne vous en faites pas. On a par exemple eu aussi dans des renouveaux, des gens qui ont exercé des charismes. Mais vous savez pourquoi ces personnes, parfois, quittent l'église catholique ou même l'église protestante ou même une église de réveil là où ils sont déjà pour créer leur église. Quand ils arrivent à un moment, quand le Saint-Esprit travaille en nous, si nous n'avons pas la maîtrise de soi, si nous n'avons pas la dose de l'humilité, nous plongeons dans l'orgueil. Et quand le charisme hiérarchique est exercé sur vous, vous dites ceci, pourquoi il veut m'arrêter de prêcher? Pourquoi il veut d'abord me dire, non, je ne dois plus prophétiser ici? Pourquoi? Il veut éteindre mon onction. Bien-aimé, tu es dans la désobéissance. Parce qu'il n'y a pas que ces charismes de puissance. Il y a ce qu'on appelle les charismes hiérarchiques. Et c'est d'ailleurs l'une des forces de l'Église catholique depuis des millénaires. C'est-à-dire, ces charismes hiérarchiques permettent de discerner les dons et les charismes. Il ne suffit pas d'avoir un charisme bien-aimé pour dire que je suis saint, je me sanctifie. Non. Les charismes ne signifie pas que vous êtes saint. Ce ne sont pas les charismes qui vous sanctifient. Donc, un franc-maçon peut opérer des miracles au nom de Jésus. Ne vous en faites pas. Je sens qu'il y a des gens qui sont déboussolés ici. Ah ben oui, tu peux avoir un charisme de prédication, mais ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Mais cependant, tu ne dois pas négliger. Tu peux avoir le charisme de vision, le don de vision. Papa, frère, ce n'est pas ça qui va t'amener au paradis. Si tu ne vis pas une vie de sanctification, si tu ne manifestes pas les fruits de l'Esprit Saint, bien-aimé, tu vas perdre le ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, certains diront, en ton nom Seigneur, j'ai guéri, en ton nom Seigneur, j'ai prêché. Il te dit, va loin de moi, je ne te connais pas, hypocrite. C'est excellent. Donc, bien-aimé, je ne vous dis pas de ne pas vous lancer à la recherche des charismes. Lancez-vous, mais n'oubliez pas la sanctification. Et je veux parler de ça pourquoi en lien avec la Vierge Marie. Cette femme humble, elle accueille Dieu en elle. Mais regardez ce qu'elle fait. Quelle humilité. Elle qui est reine, on va dire mère de Dieu. Vous savez ce que ça signifie? On a les prérogatives. Si vous là vous dites mère de Dieu, hein, les femmes, vous allez commencer, yo, mon fils, moi, je suis mère de Dieu, moi. Mais Marie, voici ce qui est dit. Marie partit et se rendit en hâte. Waouh! C'est-à-dire que précipitation vers la région montagneuse. Donc, si on parle au langage mystique, c'est-à-dire que Marie est tellement humble qu'elle grimpe les montagnes. Vous savez, quand on grimpe les montagnes pour aller chez quelqu'un, ça nécessite de l'effort. Donc, vous avez mal aux cuisses. Un pas après l'autre, eh bien, c'est un effort à fournir. Oui, bien-aimé, tu dois descendre de ta montagne. Tu dois fournir des efforts. C'est-à-dire, c'est un brisement pour l'humilité. Le fait de grimper la montagne, bien-aimé, signifie que tu es en train de te faire tailler pour être humble. Parce que si tu veux accueillir la puissance et les dons, les charismes, tu dois être taillé sous le moulin, ou bien à partir du burin de l'humilité. Et Marie nous montre ça, elle grimpe les montagnes. Bien-aimé, grimpe les montagnes. Descends, tu es trop monté. Même si tu prêches avec le feu, descends. Quand le pasteur de ton église te dit d'abord, arrête. Non, on va d'abord bien dire, si ton parler en langue là, ça vient. Parce qu'il y a le parler en langue aussi du diable. Mais quand le pasteur principal dit ceci, arrête, on va d'abord discerner. Toi, tu dis, oh non, lui, il est en train de bloquer le parler en langue. Papa, maman, tu es en train de dévier. Ça, le pasteur, le prêtre, exerce le charisme hiérarchique, c'est-à-dire le berger. Lui, on l'a nommé là, il est responsable. Donc, même s'il n'a pas l'onction comme toi, même si toi, tu prêches mieux que lui, papa, c'est d'abord lui le responsable. Donc, il exerce ce charisme. Donc, avec Marie, on apprend l'humilité. Avec Marie, on apprend l'humilité. Waouh! Que le Seigneur nous délivre du manque d'humilité. Et que la Vierge Marie, voilà, pour ceux qui veulent l'intercession de la Vierge Marie, eh bien, qu'elle nous obtienne cette grâce. Bien. Après, deuxième, donc verset 40, elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès que Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Ouh! Chaque fois que vous appelez la Vierge Marie chez vous, les catholiques, si vous ne savez même pas blaguer, chaque fois que la Vierge Marie entre chez vous, c'est une effusion du Saint-Esprit. Elle commence, ce n'est pas elle qui baptise, bien entendu. Parce que là où il y a la Vierge Marie, bien-aimée, il y a Jésus. Il y a le Père, il y a l'Esprit Saint. La Vierge Marie est appelée fille du Père, mère du Fils, épouse mystique de l'Esprit Saint et sanctuaire de la très sainte Trinité. Waouh, c'est un mystère extraordinaire. Ça, il faut avoir le charisme de la foi pour comprendre ça. Cette relation quadruple ou triple avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, elle a accueilli Dieu en elle. Dieu a habité corporellement en elle. C'est puissant, les amis. Mais regardez ce qui se passe. Marie entre donc chez Zacharie, donc la maison de Zacharie. Et on dit, elle salua Élisabeth. Et après, on parle de l'enfant. Donc, on a ici la maison qui est représentée par Zacharie, Élisabeth et l'enfant. Donc, la mère, le père et leur enfant, qui signifie la famille. Chaque fois que Marie, vous confiez à Marie votre famille, il y a un éclatement de la gloire de Dieu. Et particulièrement, un débordement d'onction. Waouh! Je vous suis en train de voir dans la foi beaucoup de personnes qui vont accueillir la Vierge Marie. Que tu sois protestant ou ceci, c'est ta maman, c'est notre maman à tous. Mais tu l'accueilles sincèrement, tu verras et ce soir, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit parce qu'elle va t'apporter Jésus. Jésus en toi, Jésus pour toi, Jésus dans ta famille, Jésus pour ton époux, Jésus pour toute la famille. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Et Élisabeth signifie la maison de Dieu. Élisabeth signifie maison de Dieu. Bien-aimé, tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit. Pour les catholiques, je ne parle pas de sacrement. Là, il s'agit d'un renouvellement parce qu'avec le péché, eh bien, nous avons tendance eh bien, à éteindre la flamme du Saint-Esprit. Et donc, il nous faut de temps en temps des pentecôtes, voilà, pour renouveler cette flamme. On dit que dès qu'elle a entendu la salutation, l'enfant a tressailli. C'est un autre mot pour dire l'enfant a été baptisé. C'est pourquoi Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, parce que Marie est la cousine d'Élisabeth, et donc, on va dire frère, hein, on va dire Jean-Baptiste est le frère de Jésus. En Afrique, on ne parle pas de cousin, on parle de frère. Bien-aimé, Jean-Baptiste est baptisé par le Saint-Esprit parce que l'enfant Jésus qui est dans le ventre de Maman Marie, qui porte Jésus au monde, Jésus baptise du Saint-Esprit. Baptise l'enfant de ce qu'on va appeler une effusion de joie. que le Seigneur Jésus-Christ te baptise du Saint-Esprit, toi qui as accueilli la Vierge Marie comme mère, toi qui l'as reconnue, et qu'il baptise en même temps ton enfant. Si tu es enceinte, que cet enfant tressaille d'allégresse dans la puissance du Saint-Esprit. Je sens une chaleur. Il y a quelques personnes qui sont en train de ressentir maintenant des chaleurs au niveau du ventre et aussi des flammes au niveau du cœur. C'est un ravitaillement spirituel. C'est un feu d'amour qui t'embrase, bien-aimé. N'aie pas peur. Et Élisabeth signifie maison de Dieu. Si tu veux accueillir la plénitude de Dieu, je dirais si tu veux accueillir la dimension du Saint-Esprit en toi, tu veux être baptisé dans le Saint-Esprit, deviens maison de Dieu. Ton corps ou ta vie, eh bien, à quelle maison appartiens-tu? Est-ce que tu es la maison du monde? Est-ce que tu es la maison du diable? Est-ce que tu es la maison de la chair ou bien tu es la maison de Yahvé? Est-ce que tu es la maison de Jésus-Christ? Deviens la maison de Dieu pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Waouh! Et donc, il dit, alors elle poussa. Donc, Élisabeth remplie du Saint-Esprit à la salutation de Marie. Chaque fois que vous demandez l'intercession de Marie, elle vous amène toujours dans la dimension du Saint-Esprit. Elle vous amène toujours à Jésus. Toujours, elle ne s'approprie pas la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Marie n'éclipse pas Dieu, mais elle donne Dieu, elle donne Jésus à ses enfants. Élisabeth a donc poussé les cris de joie. Un grand cri. Béni es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. Et là, ça fait partie de la prière de Je vous salue Marie. Tu es béni entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. C'est ça, c'est biblique. Donc, j'invite vraiment aux jeunes cathos, lisez l'Évangile. Dans Jésus, le verset 8, il est écrit, « Ce livre de loi ne se lève pas de ta bouche, tu médites jour et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu prendras. » Luc 4:4, Matthieu 4:4, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Psaume 1, « Eh bien, c'est lui qui s'abreuve ou un arbre planté, plein des sources du fruit, attend. » En temps de saison, bien-aimé, tu donnes toujours du fruit parce que tu bouffes et tu manges la parole de Dieu. Bien-aimé, tu manges la parole. Frère, si tu acceptes Marie te dit, ne vous inquiétez pas. C'est... Voilà. Donc, demande son intercession, n'aie pas honte. Que le Seigneur nous délivre aussi. C'est comme je dis aux jeunes catholiques, on ne peut pas célébrer la messe pendant qu'il y a la messe. Toi, il y a la grotte mariale et il y a la messe. Toi, tu dis non à la messe pour aller à la grotte mariale. Ça, c'est une hérésie. Parce que la Vierge Marie est toujours là où se trouve son fils. Amen. Amen. La Vierge Marie est toujours là où se trouve son fils. Quand il y a la messe, elle n'est plus à la grotte. Donc, il y a une dévotion bizarre, un peu marbre là. Donc, quand il y a la messe, vous allez, la Vierge vous attend au pied de l'autel. Amen. Amen. Et puis, qu'est-ce qu'on va encore dire pour cette prédication? Je vais terminer par en disant ceci, en lisant Actes des Apôtres, chapitre 1. J'espère que le temps, je suis dans les temps, dans le temps.
Oui, oui.
Ah, ok, super. Acte des Apôtres, ça marche. Lisons. Acte des Apôtres, chapitre 1, le verset 12 à 14. Alors, du mois des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem. La distance n'est pas grande, c'est d'un chemin de sabbat. Rentrant en ville, ils montèrent à la chambre haute, c'est-à-dire au Cénacle, le lieu de l'Eucharistie d'abord. Ce lieu qui allait devenir le lieu de la Pentecôte, où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée et Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, des mêmes cœurs, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et ses frères. Waouh! Si tu veux recevoir une Pentecôte qui ne va jamais te dévier, hein? C'est-à-dire où tu ne vas pas te dévier à cause des dons et des charismes de gloire que tu auras reçus, il faut que tu ailles au cénacle avec Maman Marie. Parce qu'avec elle, il y a ce qu'on appelle la dose. Avec elle, tu apprends à contenir le Saint-Esprit. C'est comme la Bible dit, comme l'apôtre dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et souvent, il y a des gens qui exercent des charismes. Quand ils ont des charismes, l'autre prophétise là-bas, l'autre parle en langue, mais il n'y a plus d'ordre. La Bible dit ceci, s'il y a deux ou trois qui prophétisent, mais chacun à son tour. Mais si celui qui exerce le charisme hiérarchique te dit, attends d'abord, tu attends. Parce que tant que tu laisses la porte au Saint-Esprit, il fait, hein? Lui c'est comme ça, il apparaît, il fait. Tu es déjà en train de désobéir. Et l'authenticité des charismes bien-aimés, de prédication, de miracles, de guérison, tout ce que vous pouvez imaginer, s'éprouve par l'humilité. Si vous voulez être une personne humble, regardez comment cette personne obéit aux autorités, à ses autorités. Et je bénis l'Église pour l'Église catholique, parce que quand si c'est les gens sont Dieu, c'est à parler à Dieu, même si tu es un grand prédicateur, tu prêches ou tu parles par la prédication, c'est le feu quand toi tu prêches, mais tu ne feras jamais l'homélie, parce que l'homélie, c'est le diacre, le prêtre ou l'évêque qui peut faire ça. Ta prédication, aussi puissante qu'elle soit, ce ne sera jamais une homélie, ce sera tout un partage. Amen, bien-aimé. Voilà. Donc, quand l'évêque te dit, dans mon diocèse, en Côte d'Ivoire, ou c'est pas dans l'Inde, la Côte d'Ivoire, ou je ne sais où, te dit, ah, frère, dose d'abord, attends. Tu ne dois pas dire l'évêque est franc-maçon, l'évêque nous a laissé l'onction éclater. Non, bien-aimé, c'est toi qui n'as pas encore compris que tu dois obéir à l'autorité. Et ceux qui obéissent à l'autorité ne se trompent pas. Parce que l'autorité, si se trompe, il aura des comptes à rendre. Autorité suprême qui est Dieu. Toi, tu es couvert. Bon, maintenant, quand tu désobéis à l'autorité, tu fais comment? Tu es sous quelle protection, bien-aimé? Sous quelle protection? Tu es dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance, bien-aimé. Que tu sois catholique, protestant, ainsi de suite. Si tu ne respectes pas ce que ton père te dit à ta bord, et que tu dis, le Saint-Esprit va demander de parler, tu es dans la désobéissance. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et donc, avec Marie, elle nous apprend respecter l'autorité. Marie, bien qu'elle soit la mère de Dieu, ne peut pas assumer le rôle des autres. C'était Pierre qui devait prendre la parole pour parler, pas la Vierge Marie. Et c'est pourquoi pour les catholiques, pour votre gouverne, le Christ s'est incarné une fois dans le sein de la Vierge Marie. Mais ce que le Christ réalise à travers la messe, c'est-à-dire l'Eucharistie, à travers le prêtre, la Vierge Marie se met de côté. Parce que c'est la chose que Dieu ne lui a donnée, de faire descendre le Christ comme prêtre fait descendre le Christ à chaque instant. C'est un peu célébrer la messe là. Quand je veux, je bénis, je célèbre, le Christ descend. Péché ou pas péché, le Christ descend. Waouh! J'ai entendu les catholiques qui disent ici, oh non, tel prêtre pas charismatique, tel prêtre charismatique, là. Ça c'est une hérésie. C'est une hérésie. C'est gravissime. Parce que toute l'Église est charismatique. Charisme veut dire pardon, pardon. Les charismatiques, ce n'est pas les gens du renouveau, charismatiques bien-aimés, ou bien des mouvements charismatiques. Toute l'Église est charismatique. Ça doit rester une bonne fois pour tout. Toute l'Église est charismatique. Toute l'Église. Donc, le Saint-Esprit n'est pas l'apanage de quelques personnes qui sont dans une troisième, quatrième, cinquième dimension. Bien-aimés, c'est du mensonge. Avec la Vierge Marie, au Cénacle, on est rassuré et assuré que nous allons avoir la vertu de l'humilité. Bien-aimé, le Seigneur est en train de déposer des dons glorieux dans ta vie, des charismes puissants. Mais fais attention. Si tu es orgueilleux, si tu n'obéis pas au charisme hiérarchique, c'est-à-dire que tu es supérieur, fais attention. Le diable va te rattraper. Et donc, cultive les fruits de l'Esprit Saint, cultive le fruit de l'obéissance, et c'est le plus grand fruit d'ailleurs. Parce que Dieu qui était Dieu, Jésus-Christ, il a obéi au Père et il s'est abaissé par obéissance. Waouh! Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Le Christ nous a sauvés. C'est par obéissance. C'est exceptionnel. Que le Seigneur te fortifie puissamment et qu'il t'amène à découvrir le rôle de la Vierge Marie dans ta vie de chrétien. Elle est là pour doser le Saint-Esprit en toi. Elle t'apprend l'humilité. C'est-à-dire même quand on te dit que tu es grand prédicateur, grande prédicatrice, où tu as les visions, où tu vois comment tu as le scanner, bien-aimé. Le scanner là, c'est le scanner de Dieu. Ce n'est pas ton scanner où tu vas appuyer maintenant, je vois. Non, bien-aimé. Tu dois dire le Seigneur me montre. Il te montre quand il veut. Tu ne dois pas voir parce que toi, tu veux voir. C'est Dieu qui veut te montrer. Sinon, après, c'est des pratiques bizarres. Bien-aimé, que le Seigneur nous baptise encore dans le Saint-Esprit et que le ministère de la Vierge Marie, si nous l'acceptons comme mère, eh bien, qu'elle nous apprenne l'humilité dans le silence, la force du silence et soit baptisée dans le Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, Seigneur.